Bissonnet, on se parle aujourd'hui parce que c'est la première journée nationale du dépistage du VIH. D'abord, on pensait presque qu'il y avait déjà cette journée-là, mais donc vous vous êtes regroupés avec des organismes communautaires notamment pour créer cette journée-là. On vient répondre à quels besoins exactement?
La journée, peut-être que vous faites référence, c'est le 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Donc, dans le passé, il n'y avait pas de journée pour le dépistage. C'est la journée aussi aux États-Unis pour la journée nationale de dépistage du VIH. Donc, c'est une façon supplémentaire de mettre le VIH à l'agenda, parce qu'on n'en parle jamais assez. Il reste des enjeux autant médicaux que sociaux. Fait que de parler de prévention, faut pas que ça se fasse juste une fois par année. C'est comme la guignolée, hein, les gens ont faim à l'année, pas juste dans le temps des fêtes. Fait qu'on, c'est une des méthodes qu'on a décidé d'appliquer pour rejoindre les gens. Puis le VIH, c'est pas réglé. Passer des tests, faut connaître son statut pour si on veut freiner le VIH. Puis on est tous sexuellement actifs. Hein. On souhaite l'être. Donc, par défaut, ça devrait tous nous concerner.
Donc, c'est pour ça qu'il fallait créer cette journée nationale-là du dépistage du VIH. Qui a eu l'idée de créer cette journée-là? Avec qui vous êtes concerté? On voyait que c'était entre autres des gens de l'industrie pharmaceutique, des organismes communautaires, c'est vrai ça?
L'idée commence par la Société canadienne du SIDA, qui est une association communautaire pan-canadienne qui est là pour défendre les droits et la sensibilisation du VIH pour le Canada. Donc, c'est un groupe par un communautaire. Donc, eux ont fait des démarches avec certains collaborateurs privés, donc des compagnies pharmaceutiques, pour aller chercher un peu de budget pour mettre en place cette journée-là et payer pour les tests que nous utiliserons aujourd'hui. Parce qu'il y a un désengagement de l'État. Il ne faut pas se le cacher, là, le travail pour les groupes communautaires de sensibilisation, de prévention, de suivi, d'accompagnement des personnes, l'argent y est de moins en moins. Donc, oui, on fait affaire avec le privé. Puis, tu sais, eux aussi, hein, en retirent quelque chose. Fait que moi, j'appelle ça un partenariat juste et équitable.
On parle de dépistage. Donc aujourd'hui, à travers le Canada, notamment au Centre SIDA Amitié de Saint-Jérôme, qui fait partie des 40 sites là, à travers le pays, où les gens vont pouvoir passer un test rapide?
Dans les faits, nous, on participe. Par contre, ça ne sera pas au Centre SIDA Amitié. Donc nous, ce qu'on a fait, vu qu'on a... Le Centre SIDA Amitié est un modèle unique en termes d'organismes communautaires de lutte contre le VIH. On a notre propre clinique, ce qui n'est pas le cas des autres groupes. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'ai prêté des infirmières à l'organisme GADVI, qui travaille au niveau des populations noires, africaines, subsahariennes, haïtiennes et des Caraïbes, qui est une population qui est particulièrement affectée par le VIH, dans Montréal-Nord. Donc, une partie de l'équipe du CSA s'en va là-bas faire du dépistage dans la communauté de Montréal-Nord pour offrir du dépistage rapide et anonyme. Donc, c'est notre façon de contribuer parce que dans la vie de tous les jours, on a la capacité d'offrir du dépistage de bas seuil aux populations qui pourraient en avoir de besoin. Donc, c'est notre façon de contribuer à cette journée.
Et pour les Laurentides, donc ça se fait déjà au CSA, finalement, c'est ce que vous dites?
Nous, on fait de la prévention tous les jours et du dépistage presque tous les jours. Là. Donc, pour nous, c'est une activité qui est très courante, le dépistage bas-seuil. C'est sûr que ça, c'est un nouveau gadget qui permet d'avoir le résultat là, à l'intérieur de 60 secondes. Mais c'est un test après qu'il faut quand même revalider avec une prise de sang là, si le test est positif. Donc, c'est un outil supplémentaire technologique qui, on pense, devrait être un outil que les groupes communautaires devraient et pourraient utiliser pour faire du dépistage au niveau des populations qui fréquentent peu ou pas le système de santé parce que c'est des personnes issues de la communauté LGBT puis ils se font un peu juger sur leur pratique sexuelle ou de travailler auprès de personnes qui consomment des drogues, qui ne sont pas les bienvenus dans le réseau de la santé ou de personnes issues d'immigration qui défont des statuts qui sont un peu ambigus, donc sont peut-être des immigrants illégaux. Donc, il y a plusieurs personnes affectées par ça. L'accès facile à des soins aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, quand on a l'opportunité de le faire, pourquoi ne pas le faire?
C'est ça, parce qu'il est assez frappant, M. Bissonnet, dans ce qui a été annoncé, c'est qu'on rappelle qu'environ 75 000 personnes vivent aujourd'hui, là, au moment où on se parle avec le VIH au Canada, et qu'il y a 20 % d'entre elles qui ne sont pas au courant et donc qui ne se font pas tester.
Effectivement, on calcule qu'une personne sur cinq qui a le VIH ne connaît pas son statut. Pourquoi? probablement que c'est l'accès aux soins, la peur de se faire juger. C'est encore un enjeu important, là, la stigmatisation aujourd'hui là, par rapport au VIH. Je dis souvent que le VIH aujourd'hui est une maladie beaucoup plus sociale que médicale. Médicalement, on peut contrôler plusieurs aspects du VIH, mais il y a des enjeux. Donc, c'est pas des campagnes sur des murs puis des posters qui vont rendre la prévention meilleure. Faut s'assurer que les gens qui sont directement affectés par le VIH puissent avoir accès à des méthodes de prévention, dont le dépistage, dont le traitement préventif pour le VIH, dont accès à un traitement pour quelqu'un qui vit avec le VIH, qui peut ne plus transmettre, il prend ses médicaments puis on contrôle son VIH. C'est un paquet de facteurs qui fait que la prévention fonctionne. Donc, si on fait des journées comme ça, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent pas concernés. Puis peut-être ignorent aussi qu'on VIH. On pense pas que c'est des gens qui savent qu'on VIH, mais qui ont peut-être le VIH depuis comme un an, deux ans, trois ans, cinq ans, puis qui, à un moment donné, vont être hospitalisés parce qu'ils vont être en mode sida, parce que ils n'auront pas pris le temps de faire soigner ou de faire un dépistage.
C'est ça, parce que l'idée, c'est, oui, diagnostiquer, tout ça, dépister, mais c'est aussi éviter les dommages collatéraux, donc éviter aussi que le virus se propage, finalement, c'est clair?
Parce qu'on sait maintenant que la science le dit, là, quelqu'un qui est séropositif, plus on le traite rapidement, meilleur est l'impact sur sa santé, sur le court et sur le long terme. Donc, quelqu'un qui se rend pas en stade sida va avoir moins de séquelles physiques à long terme. Donc, aussitôt qu'on dépiste quelqu'un, on le force pas à faire un traitement, mais on lui offre tout de suite, puis tu commences un traitement. Souvent, nous, la plupart des cliniques au Québec qui spécialisent dans le VIH là, peuvent faire commencer une personne la journée même. Donc, ça, c'est pas un enjeu, mais il faut que les gens se rendent. Puis à Montréal, ça va bien. Il y a plusieurs grandes cliniques spécialisées, mais moi, c'est des gens en région. Je suis pas sûr que tout le monde a accès. Je suis pas sûr que tous les médecins aussi offrent un test de dépistage à leurs patients en médecine familiale qui font un suivi annuel. Souvent, on en discutait avec le Dr Thomas tantôt à la télévision. Il y a des gens qui ont des médecins de famille qui retentissent dans nos cliniques parce que le médecin dit ben non, je n'étais pas à risque, donc je te dépisterai pas pour le VIH. Donc, il y a l'éducation très largement à faire, autant au niveau des professionnels de la santé que des personnes qui ont des relations sexuelles ou d'autres comportements à risque.
C'est ça, parce qu'on a, bon, on semble voir que l'impression, c'est que tout va bien, que c'est un peu réglé, qu'il n'y a plus personne qui décède du sida. Est-ce qu'il y a justement un peu cette fausse impression d'une certaine façon, donc même au sein du réseau, donc ce qui fait en sorte que de moins en moins de gens vont faire ces tests-là, donc de moins en moins de gens se font dépister d'année en année?
Nous, on sait ça à la clinique du Centre de la Mission. On voit souvent des gens qui n'ont pas eu accès aux services qu'ils voulaient. C'est pas rare, c'est faux qu'on entend des histoires de quelqu'un qui est allé passer un dépistage, qui dit « Ah, je veux aussi un test de VIH. » Puis que le professionnel de la santé, fait « Bah, pourquoi tu n'as pas eu de relation anale, tu t'injectes pas de drogue, fait que tu n'es pas à risque. » Il y a beaucoup de professionnels qui prétendent savoir pourquoi la personne voudrait un test de VIH qui détermine si oui ou non il passe le test. Puis, encore là, ils refinissent dans des cliniques comme celle du Centre d'amitié ou des cliniques spécialisées à Montréal pour passer des tests. Fait que, il y a un travail de longue haleine. Puis, effectivement, il y a encore beaucoup de méconnaissances par rapport au VIH. Dans le réseau de la santé, il y a aussi la stigmatisation, puis des fois des situations qui sont particulières dans le réseau de la santé. Puis, c'est pour ça aussi qu'on est là pour défendre les droits des personnes, parce que souvent, encore aujourd'hui, je connais quelqu'un qui vit avec le VIH, qui travaille dans le réseau de la santé, puis lui-même voit des choses, puis ça vient le chercher, là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, le milieu communautaire est vraiment en mode action, toujours un peu, des fois, contre le vent, là, face au vent assez intense du réseau. Mais malgré tout, vous arrivez à faire des initiatives quand même assez importantes. On vise combien de personnes? Est-ce qu'il y a un objectif pour cette journée-là? Parce que j'imagine qu'il y a une augmentation qui va avoir lieu là, du nombre de tests et de dépistages qui va avoir lieu aujourd'hui particulièrement.
L'objectif de la Société canadienne SIDA était de visiter environ 1500 personnes aujourd'hui. Donc, on verra dans les prochains jours si les objectifs ont été atteints. Nous, pour la santé d'amitié, on va en fonction des besoins des gens. Donc, s'il y en a un, il y en a un, puis ça sera un bon dépistage. S'ils en sont 12, il y en aura 12. Fait qu'on se met pas d'objectif à ce niveau-là. Où ce que nous, on trouve ça un peu difficile, c'est que on arrive théoriquement à la fin du VIH. Donc, l'ONU-SIDA a établi des objectifs précis pour 2030 pour mettre fin à l'épidémie du VIH. C'est des objectifs qui sont réalistes, c'est des objectifs que certaines villes dans le monde ont réussi à atteindre, donc New York, Melbourne, San Francisco, la Suède au complet a réussi à atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA. Donc, il y a des trucs qui sont possibles de faire. Puis là, comment ça se calcule pour mettre fin au VIH, c'est que on appelle ça les 3,90. Donc, d'ici 2020, il faut que 90% des gens qui sont séropositifs connaissent leur statut. De ces 90%-là, il faut qu'il y en ait 90% qui aient accès à des soins. Puis, sur ce deuxième 90, faut s'assurer que les gens qui sont en soins aient accès à des médicaments puis qui ont une charge virale indétectable. Ce qui veut dire que, grâce à la médication, on est capable de réduire le nombre de virus dans le sang qui fait que ces personnes-là ne transmettent plus le VIH par voie sexuelle. Donc, si on atteint ça d'ici 2020, puis après ça, de 2020 à 2030, on est capable d'augmenter la cadence à 95% de ces populations-là. Théoriquement, mathématiquement, on va freiner le nombre de nouvelles infections, puis on peut prévenir le mode SIDA parce qu'on a des outils technologiques pour le faire. C'est pas évident. Faut être capable de le faire. Puis actuellement, le Centre d'Amitié travaille pour le faire pour la région des Laurentides. On a chaque année là, entre 10 et 20 cas de nouveaux cas de personnes vivant avec le VIH. C'est pas beaucoup. Fait que, on pense que c'est réaliste pour nous d'atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA. Il y a Montréal aussi qui est sur une initiative de Ville sans SIDA qui est en train de faire un partenariat avec la municipalité, les groupes communautaires, certaines cliniques privées et le ministère pour mettre des mesures en place pour mieux prévenir le VIH. Donc, on est là. On voit, on est à la fin du finish. Ça fait 30 ans que l'épidémie est là. Ça fait 30 ans qu'on parle de VIH. On voit la fin. Par contre, les groupes communautaires, on manque de gaz, on manque de soutien. On n'est pas soutenu adéquatement pour faire notre travail. Le Québec a toujours été pionnier en termes de VIH, en termes de recherche. Le Québec mondialement a été fort en termes de soins. On était précurseur dans un paquet de trucs. Mais là, on arrive, on a l'impression que les groupes sont à bout de souffle, puis on manque la petite ressource là, pour faire les quelques mètres qui nous restent pour arriver au finish.
C'est ça, parce que 2020, on s'entend, c'est demain matin, là, donc il faut que vraiment demain que les autorités locales, provinciales en matière de santé embarquent, collaborent, mais financent aussi ces pratiques-là, financent concrètement ces actions-là.
Oui, puis tu sais, c'est pas nouveau, là. La prévention, quelle qu'elle soit, a toujours été difficile à vendre. Tu sais, combien ça coûte la prévention, puis combien on prévient, tu sais, c'est très abstrait comme concept. Fait que des fois, c'est difficile de justifier ça. De dire, ben oui, ça nous en prend plus pour atteindre ces objectifs-là. Puis quand on les aura atteints, ben il faudra maintenir des investissements, puis décider des efforts pour rester à zéro nouvelles infections. On le voyait avec la syphilis, qui était une infection à peu près disparue. Ben, à force de rien faire, oups, il y a une recrudescence de syphilis. Donc, si demain matin, on arrête de vacciner pour la polio, tu sais, s'il y a des infections comme ça qui vont venir sur la... Il y a des cas de rougeole, là, c'est ainsi des éclosions. Donc, parce qu'on a arrêté de vacciner. Fait que quand on arrête la prévention, ben, c'est sûr qu'il y a des situations qui reviennent. Puis, pour l'instant, les humains seront toujours sexuellement actifs, donc il y aura toujours du travail à faire en termes de prévention.
Évidemment, vous êtes à même de voir et de connaître surtout le portrait pour la région des Laurentides. Au moment où on se parle, il y a combien de personnes dans la région qui vivent avec le VIH, donc qui sont diagnostiquées, et combien de nouveaux cas chaque année, globalement?
Combien de personnes vivent, je pourrais pas vous dire. C'est complexe parce qu'il y a des gens qui sont suivis à Montréal et qui n'utilisent pas nécessairement les services du centre d'amitié. Donc, nous, on travaille à peu près avec 150 à 200 personnes séropositives dans l'année. En termes de nouvelles infections, on parle environ entre 10 et 20 nouvelles infections par année. Donc, ce qui n'est pas tant que ça. Donc, il y a moyen d'arriver à des objectifs plus proches du zéro. Par contre, il faut aussi penser que si on réussit à être meilleur à dépister, ça se peut qu'on en trouve plus. Donc, le 20% qui est dans la nature, puis qui effectivement fait partie de l'épidémie dynamique, là. C'est ces gens-là qui transmettent, là. C'est pas les gens séropositifs en traitement qui ont leur suivi régulier. C'est ceux qui ne connaissent pas leur statut, ceux qui sont pas en médication. Donc, si on fait des blitz de dépistage, oui, les chiffres vont augmenter. Fait, faut faire attention à comment on les interprète, mais quand même, ça donne une indication qu'il reste du travail à faire.
Et sur ces cas-là, bon, les 15-20 cas chaque année, est-ce qu'ils sont bien accompagnés vraiment au sein du CI3S des Laurentides? Comment aujourd'hui quelqu'un reçoit le fameux diagnostic? Est-ce qu'il est accompagné adéquatement? Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Qu'est-ce que vous entendez là, des gens qui fréquentent le CSA?
Pour ceux qui fréquentent notre ressource parce qu'ils ont des besoins, donc ou ils ont entendu parler de nous à l'intérieur du CIS ou parce qu'ils ont fait leur propre recherche. Médicalement, les gens qui ont VIH sont bien suivis, ça c'est pas du tout un problème avec le CIS. Mais est-ce qu'ils sont automatiquement référés à nous? Ça, je pourrais pas le dire. J'aurais tendance à penser que pas nécessairement. Donc nous aussi, on a du travail à faire avec le CIS pour être mieux travailler ensemble, s'assurer qu'au fait qu'il y a un nouveau cas positif, qu'on puisse s'assurer qu'on remplisse notre tâche, puis que le CIS fasse la sienne aussi, puis qu'on travaille en collaboration. Donc, même à petite échelle, c'est du travail de longue haleine qu'il faut être capable de mettre en place. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est dans les objectifs des 3,90, c'est le 10% manquant. Nous, on travaille avec des gens qui sont considérés comme les difficiles à travailler puis les difficiles à rejoindre. Et pourtant, quand on donne on met en place des conditions favorables à ces populations-là, ben, ils viennent à la clinique, ils viennent se faire dépister, ils prennent leurs médicaments, puis ils ont une charge virale indétectable aussi, là, comme monsieur, madame, tout le monde qui avait le VIH pour différentes raisons. Donc, il faut juste être capable d'offrir des modèles alternatifs, des fois un peu plus flexibles, à des personnes qui ont un mode de vie qui est plus complexe ou qui est moins structurant que l'ensemble de nous.
Est-ce que c'est aussi de sortir des préjugés, parler un peu leur même langage d'une certaine façon, sortir vraiment de ça? Parce que pour avoir fréquenté des gens chez vous, des intervenants, tout ça, on est loin du langage ou de la façon, des fois, de poser certaines questions dans le milieu de la santé où on sent un peu un préjugé quand même là, sur les habitudes de vie, tout ça.
Ben c'est sûr que c'est un enjeu. Si on parle des personnes trans là, qui des fois ouf, c'est compliqué pour un professionnel de la santé à gérer. On pense encore que il y a un certain regard, un certain jugement là, des fois au niveau des personnes qui ont beaucoup de partenaires sexuels, là, que ce soit hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, là, peu importe. Là. Fait que c'est sûr que le mode de vie vient jouer. Puis souvent, quand on fait un dépistage dans le réseau de la santé, ben souvent ça vient avec un questionnaire de tu fais ci, tu fais ça, avec combien de personnes, puis est-ce que tu as des relations anales, puis est-ce que tu t'es injecté des drogues. Nous, on pense qu'il y a moyen de faire du dépistage sans s'intruser dans la vie des gens. Puis si les gens viennent, c'est parce qu'ils ont une interrogation. Donc là, faisons le dépistage, puis dépendamment du résultat, on pourra faire l'éducation et le suivi approprié là, pour que les gens soient en meilleure santé et ne transmettent pas le VIH. Ou n'importe quel autre ITSS, que ça fonctionne pour toutes les infections transmises sexuellement.
Donc, au moment où on se parle, bon, il y a toute une liste là, d'endroits où on peut actuellement avoir ce fameux test. Les gens peuvent demander aussi à leur médecin de famille, venir au CSA aussi. C'est quoi les ressources? Est-ce qu'il y a un endroit où vraiment les gens peuvent aller poser leurs questions puis savoir où ils peuvent le faire là, dans la région des Laurentides?
Bien, c'est sûr que nous, on invite, par rapport en VIH, on est souvent la ressource principale, donc on invite les gens peut-être à nous contacter au 450-431-7432 si les gens ont des questions par rapport au VIH, que ce soit pour eux ou pour quelqu'un d'autre, ou s'ils ont besoin de moyens de prévention, si c'est des condoms, est-ce que c'est du traitement préventif pour le VIH, tous des trucs que nous, on peut offrir. Donc, c'est peut-être un des endroits où... ou chercher des réponses, donc au centre d'amitié. Même chose pour quelqu'un qui a besoin d'un suivi médical ou d'un dépistage, on peut s'en occuper. Par contre, on est situé à Saint-Jérôme, donc c'est pas nécessairement accessible pour tous. Donc, sur le site du CIS, il y a des points de service où il y a des centres de prélèvement qui pourraient faire du dépistage. Donc, ça varie là, d'un secteur à l'autre des Laurentides. Ou ceux qui peuvent être à Montréal aussi, bon, ben il y a plusieurs points de service privés à Montréal qui sont très, très, très accessibles et d'excellente qualité. Donc, encore là, ça va en fonction de la réalité des gens, mais c'est sûr que par défaut, on est toujours une bonne porte d'entrée pour répondre aux premières questions. Puis si c'est pas nous qui pouvons le faire, bon, on peut toujours accompagner les personnes vers le bon endroit.
Oui, et les diriger au bon endroit, à la bonne ressource. Hugo Bissonnet, merci beaucoup d'avoir réalisé cette entrevue, d'avoir accepté cette entrevue. Toujours un plaisir de vous parler.
Ça fait plaisir. Donc, mon message à tout le monde, faites-vous dépister, même si vous pensez que vous n'êtes pas à risque, au moins une fois dans une vie, puis sinon, ben une ou deux, une fois par année ou aux 2 ans, là, je pense que c'est pas trop demandé.